comment vivre sa vie d'église.
Ça me saoulait ça. Salut. Je suis content de vous retrouver. Pour moi, je fais un retour dans le temps parce qu'il fut un temps où j'ai été responsable du groupe de jeunes ici. Mais je crois qu'il n'y en a aucun qui l'était à mon époque. Voilà. Ce qui fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal surtout quand toi, tu te considères toujours comme jeune plutôt, mais que tu te rends compte, ça fait des années en fait que plus personne ne te connaît dans le groupe de jeunes. Alors, je vais vous parler de l'Église. Vous parler de l'Église, c'est comme si je vous disais, je vais vous parler de la vie, ou je vais vous parler du soleil, ou vous parler du corps humain. Enfin voilà, c'est tellement complexe, il y aurait tellement de choses à dire, je pourrais partir dans tous les sens. Je ne vais pas tout vous dire, mais quand on dit le mot Église, selon son arrière-plan, on a une image qui nous vient en tête. Je vous dis Église, vous avez tous une image mentale. Combien ici sont d'enfants chrétiens ont grandi dans l'Église, un peu des Célia. Il y a combien de Célia parmi nous? Levez la main. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Vous, je suppose. Alors, on va faire un test. Parmi ceux qui ont levé la main, là, relevez la main. Voilà. Tom, je dis église. Premier mot qui te vient.
Maison.
Maison. Ok. D'autres, relevez la main, là, que je vois, que je puisse identifier. Voilà. Louise, église.
Un bâtiment.
D'accord. Levez la main encore. Emma, église. Famille, ok. Marion, église.
Culte,
d'accord. Voilà, c'est bien. Voilà. Je peux dire culte, Jésus, Bible, Dieu, voilà, ça passe toujours en général quand on te pose une question. Voilà. Si un jour vous êtes dans un truc de biblique, on vous pose une question, vous dites Jésus, en général ça passe. 95% de chances que ça soit bon. Sauf, qui est le méchant de la Bible. Voilà. Moi, personnellement, peut-être, je ne sais plus, je crois que c'est toi, Louise, ou Emma, qui disait bâtiment. Ouais, voilà. Moi, avant de devenir chrétien, on me parlait d'église, je voyais les vieux vitraux, où je voyais les icônes où on voit Jésus, le bébé Jésus, dans les bras de Marie, qui est en train de pleurer, etc. Quand j'étais petit, tout petit, j'étais allé dans une église, cette église d'ailleurs, mais j'en gardais vraiment aucun souvenir, ou peut-être école du dimanche. Voilà, tu m'aurais dit église, j'aurais dit école du dimanche, vous savez, on t'affiche, enfin voilà, des trucs, des leçons un peu nulles, dont tu te rappelles de rien en fait. Donc voilà, c'était pour moi, c'était ça l'église. Et en fait, parler de l'église, et je pèse mes mots, c'est parler de la plus belle œuvre de Dieu. C'est l'Église. Parler de l'Église, c'est parler de ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu et de ce qu'il chérit le plus. Et ce que j'espère ce soir, avec ce que je vais vous partager, c'est que je vais dépoussiérer peut-être votre vision de l'Église et vous donner un amour renouvelé pour l'Église. Mais aussi, et je vais être clair là-dessus, clarifier certaines choses, parce que ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes de l'Église. Et il me semble important qu'on soit clair là-dessus. Donc voilà, je vous propose de parler de cette Église, parce qu'elle est vraiment quelque chose de merveilleuse. D'abord, quand on parle de l'Église sur ce qu'elle est, le Nouveau Testament utilise plein de métaphores. Il n'y en a aucun de vous qui m'a dit « Église, je pense à la vigne ». Vous voyez ? qui m'a dit, voilà, je pense au temple, voilà, des choses comme ça. Non. Mais il y a plusieurs choses et termes dans la Bible qui sont importants. Il y en a un qui a été dit ce soir, c'est le terme de famille. Le Nouveau Testament utilise ce terme-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui ont été rachetés, ont été adoptés, être converti, être chrétien, c'est avoir été adopté. Et Dieu n'est plus seulement un Dieu lointain, créateur, mais on rentre dans la famille de Dieu et on devient des enfants de Dieu. Ce qui fait que tu es enfant de Dieu. Donc, tous ceux qui sont rachetés comme toi, sont adoptés comme toi, si plusieurs enfants sont adoptés au sein d'une même famille, eh bien, alors qu'ils étaient étrangers ensemble avant, eh bien, ils deviennent du coup frères et sœurs. Et c'est ça l'Église, c'est une famille, c'est la grande famille de Dieu. Et une autre chose que Jésus dit à propos de l'Église, enfin c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit que l'Église est le corps de Jésus-Christ. Jésus étant la tête, l'Église est le corps. Alors ça peut sembler bizarre comme expression, on ne pense pas à ça, hein, l'Église est un corps, mais en fait c'est que nous sommes unis à Jésus. Et Paul utilise cette image-là d'un corps où, en fait, tous les membres, tous les organes sont unis et sont dirigés par un qui est au-dessus, qui est supérieur, qui est Jésus-Christ. Et c'est vraiment pour dire, c'est un lien qui est vital, qui est organique, on ne fait qu'un. Voilà. Un corps, si tu coupes un membre de ton corps, en fait, il ne peut pas vivre. Ce n'est pas possible. Voilà. Ça ne prend rien, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un corps qui est composé de l'ensemble des personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont devenues enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui font partie donc de la famille de Dieu, qui sont unis à Jésus pour l'éternité. Et l'Église, c'est aussi quelque chose que Jésus construit. Jésus l'a dit lui-même, vous connaissez ces paroles probablement très connues de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et donc, là on a quelque chose de complémentaire, c'est que l'Église est quelque chose que Jésus lui-même construit. Chacune des personnes qui est sauvée est comme une pierre qui est rajoutée à cet édifice que Jésus est en train de construire. Jésus est le seul créateur de l'Église. L'Église, ce n'est pas une idée, une invention humaine. Le fait de vivre comme une Église locale, de vivre aujourd'hui la vraie vie d'Église, ce n'est pas une idée que nous, on a inventée, où il y avait un livre, la Bible, et on s'est dit, bah, tiens, si on créait des Églises, et on se retrouvait à fonctionner comme une Église, et ce serait une bonne idée pour vivre notre foi. Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est Jésus qui bâtit son Église et qui la construit pierre par pierre, et on le voit après, on va y venir tout à l'heure, que dans le Nouveau Testament, quand Jésus a dit ça, la façon dont les apôtres ont compris cette mission-là qu'avait Jésus, c'était en fondant des églises locales, on va y revenir sur ce que c'est une église locale, dans tout le bassin de méditerranéen. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'est l'église, et encore là, je fais quelque chose de vraiment rudimentaire comme définition. Je voudrais rajouter autre chose dans ce qu'est l'Église, c'est qu'on en parle à deux échelles. Il y a une échelle qui est universelle et une échelle qui est locale. Et en fait, c'est exactement le même mot et ça parle de la même réalité au final. Mais l'Église universelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée, quand on parle d'Église universelle, de quoi parle-t-on? Vous avez déjà entendu ça? Ouais? Bon, ok. C'est ça, voilà, tout simplement. Universel en même temps, bon, c'est facile, quoi. Voilà. On n'a pas choisi le mot pour rien, quoi. Donc, elle est faite de tous les enfants de Dieu, mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Quand on parle de l'Église universelle, il y a l'Église universelle dans le temps présent, mais quand on parle de l'Église universelle, c'est toute l'Église qui va se retrouver dans la nouvelle création auprès de Dieu. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu authentiques, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui ont été sauvés par lui, que ce soit dans le passé, dans notre temps présent et dans l'éternité. Cette Église, on l'appelle aussi également l'Église invisible, non pas comme un super pouvoir qu'on aurait, mais en fait invisible parce que c'est pas l'Église, elle n'a pas vocation à être visible au sens comme une nation, comme un État qui vivrait sur Terre, où tous les chrétiens de l'Église universelle se diraient, voilà, on crée un pays et on vit dans ce pays-là, c'est une Église qui est visible, c'est un peuple qui est visible. Non, c'est un peuple qui est disséminé, qui est éparpillé parmi toutes les nations, qui ne vit pas comme une nation visible. Donc c'est pour ça qu'on parle d'Église invisible. Mais aussi, et c'est là où c'est important, c'est que l'Église est invisible parce que l'Église que l'on peut observer, par exemple, une Église locale, parmi les gens qui se rassemblent là, c'est l'Église qui est visible, mais parmi tous les gens qui se rassemblent en Église, il y a toujours des personnes qui ne font pas partie de l'Église. Typiquement, les enfants. Les chrétiens se viennent avec leurs enfants. Moi, je viens avec mes enfants à l'Église. On dit par commodité que ce sont les enfants de l'Église, mais en fait, c'est faux. Ce sont des enfants de chrétiens. Mais s'ils sont des enfants de l'Église, c'est-à-dire on devrait parler des enfants qui sont convertis, nés de nouveau. Et il ne suffit pas de venir dans une Église, hein, dans une communauté, de participer aux réunions de cette communauté, que ce soit le groupe de jeunes, le culte, etc., etc., pour faire partie du peuple de Dieu. Ça, il faut que ce soit clair. Faire partie du peuple de Dieu, tu ne nais pas chrétien, mais tu le deviens. Ça demande vraiment une authentique conversion, un pas de foi, une soumission à Jésus-Christ, lui donner sa vie et devenir vraiment une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel que ce soit clair pour vous. Ce n'est pas parce que vous venez là que vous êtes chrétien. Ce n'est pas par l'Église qu'on est sauvé, mais par la foi seule. D'accord ? Et donc, cette Église universelle, eh bien, le moyen de la vivre, parce qu'il y a un vrai lien, on fait partie d'une même famille, et je ne sais pas si vous avez déjà voyagé et rencontrer des chrétiens ailleurs dans le monde. Et moi, c'est quelque chose à chaque fois qui m'épate, c'est de voir le lien qu'on a, un lien qui est surnaturel, qui est créé par Dieu, parce qu'on fait partie de la même famille, où tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, et en fait, tu te retrouves plus proche de lui que des fois des voisins que tu as, ou des collègues de cours ou de travail que tu connais depuis des années. Parce que tout de suite, tu sais que tu as le même Dieu, tu parles du même Seigneur, tu as les mêmes valeurs, tu vois le monde de la même façon et tu as un amour que Dieu met dans ton cœur particulier pour lui et la même chose est réciproque. J'ai vécu ça au Népal. Extraordinaire d'aller au Népal avec des gens avec qui je n'avais rien en commun. On ne parlait pas la même langue, on ne se comprenait pas, mais on savait qu'on était frères et sœurs. Et les premiers mots qu'on pouvait se dire, essayer de se comprendre, tout de suite, on savait que c'était comme si on se connaissait depuis 10 ans. On était vraiment des amis. On avait vraiment un vrai lien intime ensemble parce qu'on savait qu'on fait partie de la même maison, on fait partie de la même famille. Mais nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas vivre l'Église universelle. C'est impossible. Je ne peux pas être en communion en même temps avec des amis du Népal comme d'autres qui sont aux États-Unis ou d'autres qui sont simplement à Lyon. C'est pas possible. Et on voit que cette réalité-là de l'Église universelle, dans le Nouveau Testament, comme je vous le disais, les apôtres ont compris ce mandat de faire des disciples parmi toutes les nations. Qu'ont-ils fait ? Ils ont rassemblé dans des mêmes villes les chrétiens qui croyaient ensemble et ils leur ont appris à vivre la réalité de l'Église à une échelle qui est locale, tout simplement. C'est ça qu'ils ont fait. Et dit autrement, l'Église locale, ou plutôt l'Église universelle, se vit à l'échelle locale. Le seul moyen de goûter à l'Église universelle, à cette réalité-là qu'elle est, de la communion avec des personnes qui, à la base, ne sont pas amies, n'ont rien en commun, mais qui sont rassemblés au sein d'une même famille, eh bien, c'est à l'échelle de l'Église locale. C'est ce que Dieu veut, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a les trois quarts du Nouveau Testament après les évangiles. Si vous enlevez les évangiles, que se passe-t-il? Vous avez le livre des Actes qui nous parle de quoi? Comment les églises sont nées, au final. Et puis après, on a toutes les lettres aux églises. Et même les lettres qui sont écrites à des personnes sont à des responsables d'église qui avaient des rôles dans l'église. Vous comprenez? Donc la réalité de l'église locale, finalement, c'est la vie se vit dans cette réalité-là, à l'échelle de l'église locale. Dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez aucun chrétien qui n'est pas dans une église locale. Hormis une ou deux exceptions, parce qu'on les voit juste à un flash. Je pense qu'on peut excuser celui qui était sur la croix à côté de Jésus. Bon, il n'a pas eu le temps de rejoindre l'église locale. Bref, voilà. Lui, il a une excuse. Quoique, est-ce qu'il a vraiment fait tous ses efforts? Bref, on peut se demander. Voilà, on a un passage dans le livre des Actes où il y a des personnes qui se croisent comme ça. Philippe avec l'Éthiopien, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais ce n'est pas le but. Mais il n'y a pas de chrétien qui vit une foi authentique et qui puisse se réclamer de Jésus-Christ comme être chrétien sans être membre de l'Église. Tu ne peux pas choisir Christ sans choisir son Église. On ne peut pas vouloir d'une personne sans vouloir de son corps. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire qu'on aime une personne sans l'aimer elle physiquement. Et cette métaphore-là de que l'Église est le corps de Jésus est importante. Et il y a même des commandements qui mettent en garde celles et ceux qui voulaient vivre leur foi sans être dans une église. Il y a un exemple dans l'Épître aux Hébreux, il y en avait certains qui voulaient quitter l'église parce qu'ils pensaient qu'ils n'en voyaient pas la légitimité, ils pensaient qu'ils pouvaient retourner dans le judaïsme et simplement y rajouter Jésus, et que la réalité de l'église locale finalement n'avait pas de sens. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. » Donc, si l'Église locale est la réalité de l'Église universelle, tous les chrétiens doivent être membres d'une Église. Il faut être clair là-dessus. On vit à une époque qui est très individualiste, où on te dit que ta foi, c'est entre toi et Dieu, ce qui compte, c'est, voilà, c'est toi et Dieu, et finalement, il n'y a aucune autre réalité que cette réalité-là, verticale, entre toi et Dieu, et tu n'as pas besoin des autres. Et ça, c'est notre héritage culturel, c'est notre héritage culturel aussi qui nous dit que la foi, c'est quelque chose de seulement privé, personnel, que tu vas vivre tout seul. Et on a un mouvement aussi en Europe qui est en réaction par rapport à ce qu'était l'Église catholique, au final, où tout le monde était de force dans l'Église. Et aujourd'hui, notre vision de l'Église, finalement, est trop petite, trop étroite. Marc Devers, un pasteur, lorsqu'il était, un jour, il enseignait dans une fac aux États-Unis. Alors, vous savez, les facs aux États-Unis chrétiennes, il y en a plein. Et il y avait des jeunes qui étaient là-dedans. Et il leur dit ceci, en introduction d'un discours qu'il devait leur faire. « Si vous vous dites chrétien, mais que vous n'êtes pas membre d'une église, j'ai peur que vous soyez plutôt en route vers l'enfer. » Il va loin, hein? On est sauvé par la foi seule, n'est-ce pas? Mais c'était une formule exprès pour les choquer. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? C'est que si nous ne cherchons pas à être membres d'une église locale, à vivre la réalité de l'église, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que nous sommes membres de l'église universelle? Vous comprenez le raisonnement? Si ce n'est pas une réalité que tu vis au quotidien, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est une réalité à laquelle tu ne peux pas toucher? Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer son corps. On ne peut pas choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur sans choisir les frères et sœurs qui ont été aussi sauvés par lui. On ne peut pas choisir un père et refuser, rejeter les frères et sœurs. Et affirmer qu'on lui appartient sans avoir une réelle vie d'église locale afin d'aimer des frères et sœurs, rend impossible l'obéissance à un commandement central de la Bible, c'est celui d'aimer les frères et sœurs. Ça semble évident. Est-ce que vous voulez prendre avec moi 1 Jean 3, verset 14 ? Jean, chapitre 3, verset 14. Je lis 1 Jean 3, verset 14. Regardez, hein, faites comme si vous ne connaissiez pas le texte. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que, stop, je m'arrête là, levez les yeux, regardez pas le texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous croyons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que nous avons placé notre foi en lui et que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ce à quoi moi je m'attends quand je lis ce texte. Mais Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Si tu n'aimes pas les frères et sœurs, si tu ne vis pas une vraie relation authentique avec eux, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es passé de la mort à la vie? Qu'est-ce qui te permet de croire que l'évangile auquel tu crois, c'est bien le vrai évangile, celui des Écritures? Que tu ne t'es pas fait un Jésus à ta sauce, mais que tu crois au Jésus des Écritures, qui affirme qu'il nous a unis à son corps et qui a créé une nouvelle communauté, une nouvelle famille et un nouveau peuple, si tu n'es pas intégré à ce peuple-là. Et je poursuis, celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie, non pas pour lui, mais pour nos frères et sœurs. S'il n'y a pas un engagement relationnel, horizontal avec les frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas d'engagement vertical avec Jésus-Christ. Je sais, on n'en parle pas beaucoup de ça, hein. Mais je suis désolé, c'est le texte qui le dit. En effet, je saute au chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Même chose. Nous avons besoin de faire l'expérience de l'Église pour faire l'expérience de l'amour de Dieu. C'est indispensable, les amis. C'est au travers de l'Église qu'on peut le mieux expérimenter l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Encore une fois, on vit à une époque individualiste et je me souviens d'amis qui me disaient « Moi, c'est en partant marcher dans la montagne que je suis seul » où je suis coupé de tout le monde, que vraiment j'expérimente l'amour de Dieu. Je dis, bon, ok, soit. Moi-même, j'ai passé, et je passe, et j'espère que tous nous passons des moments intenses, une expérience de l'amour de Dieu, seul face aux Écritures. Et c'est une réalité. Mais je vous invite à prendre un autre texte. Dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 17 à 19. Regardez. Paul dit, donc Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. Prière de Paul pour l'Église. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de cet amour qui nous dépasse, nous dit Paul? Avec qui? Avec tous les saints. C'est en vivant une expérience communautaire de l'amour de Dieu qu'on se rend compte à quel point Dieu est un Dieu d'amour. Parce que quand tu as à côté de toi quelqu'un et tu connais sa vie, tu sais par quoi il est passé, ses épreuves, tu sais, il t'a parlé des choses les plus sales qu'il a pu faire. Et tu vois cette personne qui est transformée par l'amour de Dieu. Et tu penses à toi, à ta vie, à tout ton héritage, à tout ce que tu as fait, tout le chemin par lequel Dieu t'a fait passer pour que tu sois maintenant auprès de cette personne-là. Et puis tu regardes encore un autre, et encore un autre, un autre, un autre, un autre. Et tu te dis, mais quoi ? Mais tout ce que Dieu fait, toutes ces personnes qu'il rachète, qu'il transforme. Paul le dit, c'est avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont fait cette expérience-là. Et l'expérience de l'amour de Dieu est avant tout une expérience qui est communautaire. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Donc nous avons besoin de l'Église pour connaître l'amour de Dieu. Et quand tu as des personnes qui, toi-même, tu passes par des moments de creux, tu es complètement à la rue, et que tu vas voir un autre qui va pouvoir te parler de l'amour de Dieu, te le rappeler. Cette personne va être l'instrument de Dieu pour te relever, pour te faire grandir. Et puis toi, à un autre moment, tu vas être l'instrument de Dieu pour rappeler aussi les exigences de Dieu envers la personne et lui communiquer l'espoir que Dieu veut lui communiquer. On ne vit pas notre foi tout seul. Il y a une image, peut-être vous la connaissez, mais c'est celle du feu, d'un brasier. Si tu prends une braise du brasier et que tu la sors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. Et si tu la mets dans le brasier, elle va se ranimer. Et les braises entre elles se chauffent à blanc, quoi. Et c'est la même chose quand on vit sa foi sans Église. C'est la même chose. Et donc, tout ce qu'on va vivre en tant qu'Église a un peu ce dénominateur commun-là, c'est de nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu et de son amour pour nous. Cet amour qui transforme, cet amour qui te percute, qui te fait changer radicalement. Je me souviens quand je suis arrivé, la première fois que j'ai mis les pieds à l'église ici, quand je me suis converti, c'était au groupe de jeunes. Et alors, j'arrive au groupe de jeunes. Alors voilà, certains sont venus me saluer. Comme ma mère faisait partie de cette église et qu'elle priait, elle demandait dans toutes les réunions de prière de prier pour moi parce que j'étais tellement loin. Enfin, j'avais une vie, je faisais n'importe quoi. J'étais, enfin voilà, ça sert à rien que je m'étende là-dessus, mais c'était bien pire que vous tous réunis. Ça, je peux vous l'assurer. Même si je connais pas vos vies, je sais que je peux l'assurer. Je suis arrivé là et je voyais ces jeunes-là. Ils étaient gentils et pour moi, c'était les caricatures des chrétiens, quoi. Ils étaient gentils, ils étaient polis. Et puis, à l'époque, c'était Jonathan Bogetto qui était là aussi au groupe de jeunes. Il commence à prendre la guitare et il fait des chants comme a fait Johnson. Et je regardais ses chants, je me disais, mais c'est quoi cette musique? Moi, toute ma vie, j'ai écouté que du rap. Tu vois, donc voilà, tu vois, et cette pop un petit peu chrétienne, et ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis, en fait, j'ai commencé à baigner dans cette ambiance, à avoir des discussions avec les uns les autres. Puis je voyais des personnes qui, sincèrement, s'intéressaient à moi et qui me disaient, écoute, je veux prier pour toi, qui priaient avec moi et qui m'encourageaient, qui ont commencé à m'inviter. Et moi, je me sentais mais tellement naze, je me sentais dans une autre planète. Et en fait, je ne comprenais pas parce que petit à petit, même si leur musique, elle était nulle, même s'ils avaient tous des tronches de premier de la classe, En fait, ils étaient super sympas. Et on était tellement différents, on n'avait rien en commun. Mais j'ai pu faire cette expérience-là de cet amour. Et je me souviens, Reynald, vous voyez qui est Reynald Kuffer, qui était l'ancien pasteur ici, qui est parti à la retraite. Au tout début, il m'a dit, écoute, si je peux te donner un conseil, c'est si tu veux grandir dans ta foi, grandir dans ton amour de Dieu, prends tout ce que l'Église offre. Et réponds à tous les appels pour servir. Fais tout ce qui... Voilà, lève la main, quoi. Dès qu'il y a un appel, besoin d'un... Voilà, tu lèves la main. Écoutez, je me suis donc retrouvé dans des situations, mais improbables. Je me suis retrouvé chez une femme avec des hommes de l'église à retaper son appartement. Je l'avais jamais vu, j'avais jamais discuté avec elle. Et je me retrouve un soir en semaine à faire de la tapisserie chez elle. Et cette femme, son mari l'avait quittée. Elle avait 3 enfants. Ses enfants avaient des graves problèmes. Et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle voyait des jeunes qu'elle avait à peine, avec qui elle avait à peine discuté, mais qui prenaient du temps pour lui faire sa tapisserie et lui rénover son appartement. Et bon, moi, j'étais là, je faisais quoi. J'étais là, ben, ça me fait plaisir, voilà. Et puis après, je me suis retrouvé avec Reynald, qui m'a embarqué, quand j'y pense, chez une mamie qui ne pouvait plus venir à l'église. Et je me retrouve un samedi après-midi, j'ai 24 ans. À l'époque, donc à 24 ans, je viens de me convertir, je me retrouve chez une grand-mère avec Reynald et 2 autres grand-mères de l'église. Vous voyez l'ambiance? Tasse de thé, tout ça, autour de la table, à chanter dans les vieux cantiques a cappella. Moi qui écoutais que du rap, tu vois. Et j'étais là et je regardais Reynald, il était là avec tout son cœur, il chantait. Et puis on a ouvert la Bible et il donnait une étude biblique à ces vieilles dames qui ne pouvaient plus venir à l'église et qui étaient... Voilà, et puis je voyais son amour pour elles. Et elles me parlaient, elles me posaient des questions et elles ont prié pour moi et tout ça. Je me disais, mais ça, moi je pourrais... Enfin, c'est improbable. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation comme celle-là, quoi. Sauf si on te force à y aller avec un flingue, en disant tu vas aller chez les grand-mères boire à la tisane, ou si c'est Dieu qui le fait. Ou si c'est Dieu qui le fait. Et je me suis retrouvé avec, voilà, dans des situations comme ça, à faire des chantiers, à faire des balades. Je me suis retrouvé invité chez des personnes que je ne connaissais pas et tout ça. Et en apprenant à connaître ces personnes-là, ben, j'apprenais aussi à connaître l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et je comprenais mieux l'œuvre de Dieu dans la mienne. Donc nous avons besoin de l'Église pour faire l'expérience de cet amour qui nous dépasse. Et cet amour qui nous dépasse va nous pousser à la maturité spirituelle, à l'expérience de la grâce. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que dans l'Église, des fois, il y a des gens qui te blessent. Tu peux blesser des gens, mais tu vois ces personnes qui viennent te voir et qui te demandent pardon. Et tu dis, waouh, quelle humilité il faut pour... Enfin, moi, avec mes potes, on ne s'était jamais demandé pardon. Ça ne se fait pas de se demander pardon. Et là, tu as des gens qui vont te demander pardon. Et toi, tu vas aussi apprendre à pardonner. Et tu vas vivre tous ces commandements que les Écritures te demandent de vivre et que tu ne peux expérimenter qu'au sein de l'Église. Et tu vas apprendre encore la grâce, encore et encore. Parce que tu vois des vies brisées, des vies qui ont été rachetées, des vies qui sont transformées. Et tu vois comment Dieu agit au quotidien, mois après mois, année après année, dans la vie d'autres personnes. Et c'est la classe, c'est l'école, c'est le cursus que Dieu nous donne pour grandir dans notre foi. C'est dans cet écosystème qu'est une église locale avec tout ce qu'on peut y vivre, quoi. C'est aussi là qu'on va apprendre à grandir par le service. À mettre nos dons en pratique. Et je me souviens voilà, de ces choses. pareil, je m'étais fixé le même truc. Après, j'avais trouvé cette idée de lever la main bien. Je me suis dit, tout ce qu'on me propose de faire, enfin, là où il y a des appels, je lève la main. Je me suis retrouvé à faire du babysitting. Moi, à faire du babysitting, à changer des couches. Enfin, c'était des trucs. Mais, voilà, je me suis retrouvé que ce soit ouais, des chantiers, mais j'en ai fait, parce que tout le monde a besoin à amener des courses. dans un hôtel à Grenoble où il y avait une femme qui arrivait en France qui était sans papier et qui avait besoin, et il fallait tous les soirs lui amener deux gros sacs de courses, de vêtements et de sacs que les gens de l'église donnaient. Et moi, sur le coup, j'ai dit, ça m'a touché la situation de cette femme, j'ai dit, je le fais. Et en fait, les gens amenaient à l'église, et moi, il fallait que je vienne à l'église tous les soirs, je porte mes deux sacs et que j'aille jusqu'à la gare monter, et je la voyais dans cette chambre avec ses deux gamins, et je lui apportais les sacs de bouffe et les sacs de vêtements et tout ça, et puis elle me disait, mais tu peux prier pour moi ? J'étais tout jeune chrétien, je disais, ben, je vais pas lui dire non, quoi. Alors, je priais avec elle et tout ça. Mais ça, c'est des expériences qui te transforment. Qui te transforme. Moi, je vivais pour moi. J'étais un égoïste, mais fini. Et je le suis toujours. Et si je le suis moins, c'est parce que Dieu me transforme. Et tous les progrès que je peux constater dans ma vie, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu. C'est pas moi qui deviens meilleur. C'est Dieu qui grandit en moi. Et c'est le but de Paul. C'est au sein de la communauté qu'on grandit et que Dieu établit de plus en plus son règne dans la vie de chacun des membres de l'Église. Et donc moi, je veux vous encourager à ça. À vivre intensément la vie de l'Église. Plus vous vivrez la vie communautaire, plus vous allez grandir, plus vous allez mûrir. Ça ne sert à rien de vouloir vivre à moitié. On ne peut pas vivre à moitié. C'est comme quand tu vis à moitié ta vie de famille. Ni toi, tu es heureux, ni tes frères et sœurs ou ta famille est heureuse, c'est totalement bancal. On est appelé à vivre des relations authentiques dans la famille, bien c'est la même chose dans l'Église. Et ce n'est pas un hasard, si vous voyez ceux que vous pouvez prendre pour modèle, ce sont tous des personnes qui sont investies et qui vivent réellement la vie d'Église. Vous ne trouverez jamais de modèle chrétien auquel vous pouvez vous identifier, qui vont vous encourager, vous donner envie, qui sont en marge. Jamais, vous ne trouverez pas ça, ce n'est pas possible. Voilà, ça fait 36 minutes. Je voudrais encore terminer sur une chose, mais j'aurais tellement à dire, tellement à dire. Comment devient-on membre d'une église locale ? Est-ce que vous avez une idée ? Attends, je vais te taper. Fraternellement. Ah mince, enregistré. Ça finit sur le site ? Non, ça finit pas sur le site. Si ? Si, non. D'accord. C'était une blague. C'était vraiment une blague, c'était du second degré. Et tout le monde a rigolé, personne n'a cru à ce que j'ai dit. Alors, dans la Bible, est-ce que vous voyez, je vous fais une question, je fais une pédagogie inverse. Est-ce qui fait qu'on est membre d'une église locale, c'est le fait d'aller régulièrement, je parle même quand on est chrétien, régulièrement dans une église. Est-ce qu'on voit par exemple Paul qui va dire à Timothée, ouais, tu vas dans quelle église, toi ? Est-ce que c'est juste d'aller dans une église régulièrement, de dire bah ouais, mais je suis fidèle, hein, j'y vais tous les dimanches, je suis vraiment enfant de Dieu, et tous les dimanches je vais au culte. Non, c'est pas ça. Juste aller au culte, tu peux pas aimer les autres comme Christ a aimé. Même à la fin du culte, si tu leur fais un gros câlin, ça va être vite limité. Ça va être compliqué. Il faut un peu plus que simplement se pointer au culte. Ça ne vous vient pas ? Il y a une réponse évidente, elle est tellement grosse.
En aimant les frères et sœurs, quand ça se traduit par le service ?
Quand ça se traduit par le service, en aimant les frères et sœurs, oui. Mais il y a un truc encore plus gros que ça.
Quand tu te convertis ?
C'est en lien avec ça. Effectivement, tu deviens membre de l'Église de l'Église universelle, quand tu nais de nouveau, bien évidemment. C'est ça qui fait toi un membre de l'Église. Mais comment ça se traduit dans les Écritures ? Le baptême ! Effectivement, c'est essentiel. C'est le baptême. Regardez, prenez avec moi les textes. Ce qu'il se passe. « Acte 2, verset 28, 38, pardon, et verset 41. Donc avant ça, on a le mandat missionnaire de Jésus-Christ. Allez, faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les, ensuite, enseignez-les, et je suis avec vous jusqu'à la fin de... Non, il manque un truc. Enseignez, vous les baptisez, vous les enseignez à garder ou à obéir à tous mes commandements. D'accord ? Ce n'est pas juste une classe où tu apprends des connaissances, mais ils doivent apprendre aux gens à obéir à tous leurs commandements. Tu baptises et ensuite ils apprennent à obéir. OK ? Donc ça, c'est le mandat missionnaire. Regardez ce qu'il se passe donc en acte 2, verset 38. À la fin, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre après au moment de la Pentecôte. Et là, à la fin de sa prédication, il y a plein de gens qui lui disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ce que tu nous as dit là ? C'est énorme, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Voici ce qu'il leur dit. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. » Ce n'est pas, on leur dit, bah, « Vous croyez, c'est super, venez à l'Église et vous ferez partie de la famille. » C'est « Vous avez reçu la parole, soyez baptisés et vous êtes ajoutés à l'Église. » Donc le baptême, si vous voulez, on fait le lien, il fait le lien entre la conversion et la vie d'Église. Et moi, quelque chose qui me rend, que je ne comprends pas, c'est comment on peut être chrétien, se dire chrétien depuis longtemps, vivre une vie d'Église et pas être baptisé. C'est un non-sens. Parce que le baptême, et ça c'est quelque chose encore une fois qu'on oublie, le baptême il a une dimension verticale, c'est celui de la conversion, qu'on appartient à Christ, mais une dimension horizontale, c'est que non seulement on s'identifie à Jésus, mais aussi à son peuple. Et c'est l'entrée symbolique dans l'Église. Je dis toujours, c'est comme une alliance. Ce n'est pas parce que tu portes une alliance à l'annulaire gauche que tu es marié. Mais parce que tu es marié, tu la portes. C'en est le symbole de ton mariage. Hein, si vous n'êtes pas vraiment marié, que vous la portez là, vous n'êtes pas marié. Hein. On est clair. Voilà. Donc, c'est la même chose. Et c'est comme quelqu'un qui voudrait se marier, mais qui ne voudrait pas vivre le... Enfin, qui ne voudrait pas faire ce qui fait qu'on est marié, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je vous encourage, vraiment, si vous êtes né de nouveau, authentiquement chrétien, et que vous n'êtes pas baptisé, il faut vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? Encore une fois, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez aucun chrétien qui n'est pas baptisé. Ça n'existe pas. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir les responsables du groupe de jeunes et leur en parler. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit par rapport à Matthieu 28, hein ? Ce n'est pas une fois qu'on obéit à tout et qu'on est devenu un bon chrétien qu'on se fait baptiser. C'est d'abord on devient disciple, on se convertit, vient le baptême, qui est la première des obéissances. Et ensuite, on obéit au reste. Le baptême n'est pas le signe qu'on est mûr, mais le signe qu'on est sûr de son salut. Et si vous voulez, si vous faites baptiser, vous rentrez officiellement, symboliquement, dans la communauté. Et pourquoi on ne se baptise pas, pourquoi on ne fait pas de baptême, par exemple, dans un endroit privé, où tu ne peux pas dire à Isaline, elle va dire à, je ne sais pas, n'importe laquelle d'entre vous, voilà. Par exemple, elle ne dirait pas, bah, viens chez moi, dans la baignoire, tu me baptises. Non, ce n'est pas ça. Parce que le baptême, c'est le symbole de l'entrée dans la communauté. Et quand vous êtes là le dimanche et que vous voyez quelqu'un qui se fait baptiser, le rôle de l'Église n'est pas passif. On n'est pas là juste pour écouter un spectacle, dire « ouais, c'est beau ce que Dieu fait », etc. L'Église est là pour recevoir le témoignage et dire « par son témoignage, nous reconnaissons que nous avons le même Père. Nous croyons que cette personne aussi est sauvée et nous sommes unis ensemble. Et donc, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'elle. C'est de l'accueillir et de la faire grandir et de lui apprendre à vivre comme un disciple de Jésus-Christ. » Et cette personne s'identifie à l'Église et dit « Vous êtes ma famille et je me rends redevable devant vous de ma foi. » Alors, si vous n'êtes pas membre, enfin, si vous êtes déjà baptisé, mais que vous avez rejoint l'Église ici, je crois qu'il y a quand même une réalité qui est importante, c'est celle de demander à devenir membre. Alors, ça se traduit par une réalité associative, mais être membre d'une Église n'est pas une réalité associative. C'est pas à cause d'une loi 1901 ou 1905, etc., qu'on devient membre. C'est pas ça. La réalité, c'est de dire « je m'engage dans cette communauté à vivre ma vie dans une communauté de foi avec mes frères et sœurs, d'être redevable envers eux, de les servir et je m'engage à être fidèle. Je m'engage » et c'est tous les engagements, vous savez, de les uns les autres. Mais ça, il nous faudrait une autre soirée pour en parler ensemble. À veiller sur eux, à veiller sur leurs besoins, à pleurer avec eux quand ils pleurent, à me réjouir avec eux quand ils se réjouissent, à prier pour eux, à me soumettre à l'autorité, à me rendre redevable vis-à-vis de mes péchés, à soutenir financièrement l'Église, etc., etc., quoi. Et à vivre la réalité d'une vie de communion fraternelle. Et là, en vivant ça, nous reconnaissons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Là, oui, il y a une réalité, une vie communautaire où on vit ensemble. Ok, question.
Quel est le strict minimum pour qu'on parle réellement d'église? Par exemple, moi j'avais quelques potes de la ville de Grenoble, je peux me réunir.
Ouais.
Et puis ensemble, ben, on vit la communauté, on fait un peu ce que tu as dit. Qu'est-ce qui fait que ce serait une église locale ou pas?
C'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion et qui fait des débats. Pas tout le monde est d'accord. Pour moi, il me semble qu'il faut regarder aux actes et aux épîtres. Des personnes disent l'Église, il suffit, voilà, quand Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux, bon ben voilà, ça c'est l'Église. Mais on voit que la réalité de l'Église, que se passe-t-il dans le Nouveau Testament, et là je vais te donner mon avis, c'est que tous ceux qui croient sont rassemblés, vivent une communauté de foi entre eux, d'accord ? Et dans cette communauté de foi, Paul repasse et nomme des anciens et leur confie à eux le dépôt, vraiment la transmission du message de l'Évangile et leur dit « les kikis, maintenant c'est à vous de veiller à ce que l'Église soit enseignée fidèlement à ça, qu'elle obéisse aux ordonnances de Jésus ou les sacrements, c'est-à-dire le baptême, la Sainte Cène, et de veiller à l'enseignement de cette Église-là. » Et l'Église est en même temps quelque chose de très organique, c'est relationnel, hein, c'est pas que institutionnel, mais c'est un organisme institutionnel ou une institution organique. On retrouve les deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi des personnes avec des rôles reconnus, qui ont une autorité qui est légitime devant l'Église, avec une fidélité, etc. Enfin, voilà. Donc, pour moi, effectivement, quand on se retrouve à 3-4 potes, tu es chez toi, tu bois le café, et voilà, tu vis une réalité spirituelle de l'Église. Mais tu n'es pas appelé à vivre l'Église comme ça. Ça ne peut pas se substituer à l'Église qui doit être établie, qui a une confession de foi, qui respecte cette confession de foi-là. Voilà, c'est pas, sinon, tu crées pas un truc comme ça. Alors, il y a des églises qui vivent beaucoup ça, avec plein de petits groupes, mais qui sont rassemblés régulièrement dans un grand groupe. Mais dans chacun de ces petits groupes-là, il y a des responsables. Voilà. Le groupe de semaine, pour nous, c'est clair, ce n'est pas l'Église. Mais c'est au service de la communion fraternelle dans l'Église. Et nous sommes convaincus que même les jeunes n'ont pas besoin du groupe de jeunes. Les jeunes n'ont pas besoin du feu, n'ont pas besoin du GBU. Les jeunes, pour grandir, le plan de Dieu, c'est l'Église. C'est avec des gens qui sont différents, complémentaires de nous, qu'on voit qu'il n'y a que l'Évangile qui est capable de nous unir et qu'il est suffisant pour ça. Bien sûr, ça a une utilité d'avoir un groupe de jeunes, d'avoir des gens qui ont un vis-à-vis, avec qui tu as un vis-à-vis, qui sont dans la même étape de vie que toi, qui font face aux mêmes problématiques. C'est pour ça que nous, pour nous, c'est très important dans l'Église, le groupe de jeunes, et qu'on a une vraie politique vis-à-vis de la jeunesse, ça. Mais ce n'est pas la réalité de l'Église. Ce n'est pas l'Évangile qui fait l'Église, plus la classe d'âge. Ce n'est pas ça qui fait l'Église. Ce qui crée l'Église, c'est l'Évangile et rien d'autre. Et l'Évangile réconcilie et rassemble des personnes de toute nation, de tout âge, de toute origine, de tout niveau social, etc. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, je t'ai donné mon avis. D'autres questions?
Oui.
Josias, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que tu peux résumer les raisons pourquoi on a besoin de l'église locale et pas l'église online, par exemple? Parce que c'est pas suffisant de regarder
oui.
Les cultes.
Oui. Ouais. Ouais, moi, des fois, je disais à ma femme, je dis, tu crois que ça passe si je prêche par Skype et que je reste à la maison, j'ai vraiment la flemme. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui faisait des trucs avec hologramme, je me disais, mais le kiff. Tout simplement, parce que via, par exemple, si je prends l'exemple d'Internet, Internet va faire de toi quelqu'un d'informé, mais ne pourra jamais faire de toi un disciple. Tu vas entendre des choses, tu vas recevoir des enseignements, tu vas lire même des livres, à l'époque il n'y avait pas Internet, mais juste des livres, enfin voilà, tout ce que tu peux glaner comme information, même les meilleurs, ne vont pas te faire vivre la réalité de relations physiques, fraternelles ensemble. C'est comme si je te disais pourquoi tu ne peux pas avoir un couple ou une famille online. Bah, essaye, enfin, si tu y arrives, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Des fois, on aimerait, hein. Des fois, j'aimerais avoir des enfants online, tu vois. Et dire, ah mince, ah, j'ai plus de réseau, ah, j'ai plus de batterie, oh mince, et j'ai perdu mon chargeur. Ça serait tellement bien, ça serait tellement bien. Mais on a besoin de vivre des relations authentiques. Voilà. Je suis en train d'écrire un bouquin sur le début de la vie chrétienne. Et j'avais construit mon livre, et il y avait un truc qui me grattait, je ne savais pas pourquoi, je n'étais pas à l'aise avec le plan. Et en fait, j'ai vu que j'avais mis le chapitre sur l'Église presque à la fin. Et j'ai vu plein d'autres bouquins, j'ai consulté en gros tout ce qui s'est écrit sur le début de la vie chrétienne, et je vois dans tous les bouquins, l'Église vient à la fin. Parce que naturellement, on commence à parler de la vie chrétienne dans la relation avec Dieu. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bah, il faut que tu apprennes à lire la Bible, il faut que tu apprennes à prier, il faut que tu apprennes à témoigner, toutes ces choses-là. Et après, on se dit, ah oui, au fait, bah, oui, effectivement, il y a l'Église. Il faut que tu vives la vie d'Église, c'est important. Et en fait, volontairement, je l'ai mis au chapitre 2. Et ce que je veux dire à mon lecteur, ce que je veux lui communiquer, c'est que tout ce que je vais lui dire par la suite, les conseils que je vais essayer de lui donner dans le livre, s'il ne les vit pas dans une réalité d'une communauté de foi, d'église locale, il n'y arrivera pas. Tu as besoin de te rendre redevable vis-à-vis de personnes. Pour apprendre à lire la Bible, tu as besoin de personnes qui sont autour de toi et qui vont te conseiller. Et Dieu nous met dans un peuple, quoi. Nous met dans une communauté. Et on doit vivre dans cette communauté-là. Ça, c'est... Et en fait, quand je l'ai mis au début, je dis, ah oui, là, je ne suis plus cohérent. Et si vous avez quelqu'un qui se convertit, le premier conseil que vous lui communiquez, c'est vis la vie d'Église. S'il vit la vie d'Église, il recevra tous les autres conseils des Écritures. Mais s'il est seul avec sa Bible dans son coin, mais C'est comme si tu voulais une auto-formation en médecine. Il y aura un peu des trous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans ta formation et dans tes connaissances de ce qu'est la médecine. Il y en a qui ont essayé. Une autre question? Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon. Okay. Oui, excuse-moi, Sandrine. La réponse la plus rudimentaire que je peux te donner, il me semble, c'est que plus tu vas aimer Jésus-Christ, plus tu vas aimer le peuple de Jésus-Christ et son corps. Tu as des personnes, tu les vois mariées et tu te dis, mais comment elle peut être mariée avec quelqu'un qui est si moche? Non, c'est vrai. Vous dites peut-être avec Marion, mais comment elle fait pour être mariée avec un mec qui est comme ça, quoi? Effectivement, j'ai changé. Mais la réalité est que plus tu vis avec la personne et plus tu l'aimes, plus ton amour pour elle est inconditionnel. Et tu l'aimerais même si elle se retrouvait à baver dans un fauteuil roulant et qu'elle était dégoûtante. Être uni à Jésus, c'est être uni aux autres. C'est faire partie de son corps. Et tu es un membre parmi les autres. Plus tu aimeras Jésus-Christ, plus tu aimeras son corps. Même si tu le trouves laid, même si... voilà. Et l'amour des autres... il ne faut pas le sentimentaliser à l'extrême. Ce n'est pas avoir des papillons arc-en-ciel et le soleil tout rose et Hollywood, etc. Ce n'est pas que ça, l'amour des autres. Mais quand tu le vois dans les Écritures, l'amour de l'autre, c'est un engagement. Un engagement à servir. Un engagement à s'effacer pour faire de l'autre la priorité. Un engagement à donner à l'autre et à tout faire pour que lui soit élevé. Un engagement à se considérer comme le moindre face à l'autre et pas prendre l'autre d'une façon supérieure. C'est comme ça qu'on apprend à aimer. Et par la relation avec Christ, et plus Christ est grand en nous, plus il est glorieux, plus son Église, plus on va comprendre à quel point il aime l'Église. Et plus on va lui ressembler, plus on va aimer l'Église. Il y aura encore plein d'autres choses à dire, bien sûr. D'autres questions, c'est bon?